France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
C'est une spécialité née au moment de la guerre de 14-18, une guerre qui a laissé à des milliers de soldats le visage détruit par une grenade ou un éclat d'obus, les gueules cassées. Des blessés que des chirurgiens audacieux ont tenté de réparer. Depuis, la chirurgie maxillofaciale n'a cessé de progresser. Les victimes de la guerre ont laissé la place à des patients atteints de cancer, de malformations de naissance ou rescapés de tentatives de suicide ou encore d'accidents de la voie publique. Avec des techniques de plus en plus novatrices, ces patients peuvent à nouveau manger, parler, mais aussi passer inaperçus dans la rue en retrouvant un visage humain. Qu'est-ce que recouvre la chirurgie maxillofaciale? Qu'a-t-elle de particulier? Comment a-t-elle évolué? Quels sont les liens qui existent entre patients et chirurgiens dans cette aventure de reconstruction qui peut durer des mois, voire des années? Et peut-on encore progresser? On en parle avec le professeur Chloé Bertolus. Chloé Bertolus, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes chirurgienne, professeure des universités. Vous dirigez le service de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a beaucoup entendu parler de vous, hein, je suis un peu obligée de le rappeler, après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, puisque vous avez pris en charge de nombreuses victimes, dont Philippe Lançon, journaliste, qui racontait ses mois avec vous, lui, patient défiguré, et vous, chirurgienne, chargée de lui redonner un visage. Il en avait tiré un livre, Le Lambeau, paru chez Gallimard. On y découvre un peu comment vous réparez les dégâts, les drames de la vie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant de cette spécialité qui reste mal connue et de votre travail, bien sûr en France, mais également au Sénégal ou en Ukraine où vous vous rendez régulièrement. Un petit mot sur vous d'abord. Pourquoi on choisit la chirurgie et plus spécifiquement la chirurgie maxillofaciale? On imagine d'ailleurs souvent que c'est plutôt un métier d'homme. Je me trompe. Mais pourquoi on choisit cette spécialité?
Alors, la chirurgie, je crois que le test se fait pendant l'externat, enfin quand on est étudiant, et que la première fois qu'on va au bloc, je pense que soit on adore, soit on déteste. C'est assez clivant, comme on dit, de nos jours. Il y a des gens qui supportent pas ça, et d'autres qui, au contraire, sont fascinés, et j'ai probablement fait partie de la deuxième catégorie. Pour ce qui est de la chirurgie maxillofaciale, je l'ai souvent dit, je ne l'ai pas choisi, c'était pas une vocation première. Je crois qu'on décide d'être chirurgien à un moment ou un autre, et puis ensuite on a des affinités avec les gens qu'on rencontre. Et on a une façon de penser peut-être, ou une façon d'interagir avec les patients que l'on retrouve chez certains collègues plus âgés, et qui nous plaît, et qui fait qu'on... On se fixe sur une spécialité. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne me suis jamais dit « je vais être chirurgien maxillofacial ». Mais je le suis devenue.
Littéralement, si je traduis, la chirurgie maxillofaciale, c'est la chirurgie de la face et des mâchoires?
Absolument.
Pourquoi on dit face? Pourquoi on ne dit pas visage?
La face, c'est, je pense, l'aspect technique, c'est-à-dire l'os, les muscles, la peau, les nerfs, les vaisseaux. Le visage, c'est plutôt ce qu'on présente au monde et qui est l'association de tout ça et la façon dont ça bouge et l'expression qu'on donne. Vous savez, quand on dit à 20 ans, on a le visage que la nature vous a donné et à 50, on a celui qu'on s'est fait. Le visage, c'est beaucoup l'expression, je pense. En tout cas, moi, je l'entends comme ça.
Quand on parle de cette chirurgie, je disais, on pense aux gueules cassées, hein, de la Première Guerre. Mais en fait, on trouve des traces de cette chirurgie dès l'Antiquité. On opérait déjà?
Absolument. Je pense qu'on a toujours tenté de redonner aux gens qui l'avaient perdu dans un accident ou du fait d'une maladie, un visage précisément, c'est-à-dire quelque chose à présenter au monde. Et donc je pense que les tentatives sont connues pour être très très anciennes, hein, en Inde entre autres, avec des tentatives de reconstruction du nez, avec des... voilà. Parce qu'en fait, les blessures du visage ne tuant pas les gens, mais il y avait des survivants en fait, et donc ces survivants, il fallait tenter de s'en occuper pour leur redonner visage humain.
Et donc ça a été effectivement le cas pendant la guerre de 14-18, où les obus et les grenades ont donné de gros délabrements. Il y a près de 15% des blessés qui l'ont été au visage. À l'époque, il y avait peu de centres spécialisés en chirurgie, hein, maxillofaciale. Un à l'hôpital Lariboisière et un au Val-de-Grâce, un service appelé le service des baveux, qui était dirigé par le docteur Hippolyte Morestin, qui a inventé des techniques. Et quelques années plus tard, le docteur Dufour-Mantel, qui était élève puis successeur de Morestin, a prélevé des lambeaux de cuir chevelu des patients pour leur refaire leur mandat. menton. Et aujourd'hui, ces lambeaux sont très utilisés dans la chirurgie maxillofaciale. Ce sont des lambeaux qu'on appelle libres. C'est une vérité. Non, c'est pas cela. Bon, mais vous allez me dire. En tout cas, comment on utilise ces lambeaux? Parce que c'est un peu la révolution de pouvoir faire ces lambeaux.
Alors, la technique de Dufour-Mantel qu'on utilise toujours et qui consiste effectivement à prélever une bande de cuir chevelu et à la faire basculer pour refaire le menton, c'est ce qu'on appelle un lambeau pédiculé, c'est-à-dire que la vascularisation reste en place. On se contente de faire basculer le tissu concerné. Un lambeau libre, c'est quand on va couper les vaisseaux.
Et c'est ce qu'on fait, ça, maintenant.
On le fait aussi, mais on fait toujours.
Ah, on fait toujours, d'accord.
Ça peut arriver, d'accord. Bien sûr. C'est très utile pour reconstruire le menton des hommes, entre autres, parce qu'on va amener du cuir chevelu, donc des poils, donc une barbe. Un lambeau libre, c'est quand on va sectionner le pédicule vasculaire, c'est-à-dire l'artère et la veine qui nourrissent le fragment d'os, de muscle, de peau qu'on prend très à distance sur le corps, à la jambe, dans le dos, à l'avant-bras, et qu'on va réaliser une suture chirurgicale, une micro-chirurgicale de ces vaisseaux sur les vaisseaux du cou pour pouvoir vasculariser ce fragment. Donc ça, c'est la définition du lambeau libre. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe tout ça.
Vous vous sentez l'héritière de ces pionniers de cette chirurgie maxillofaciale?
Ben, par la force des choses. Regardez, on utilise le lambeau de Dufour-Mantel. Hippolyte Morestin, il y a un certain nombre d'instruments de chirurgie qui portent encore son nom et de techniques qui portent son nom. On utilise tous les jours le crochet de Ginestet, enfin tous ces grands noms. Bien sûr que tout a été inventé pendant la guerre de 14. Ensuite, nous, on utilise d'autres techniques, et entre autres les lambeaux libres, qui permettent d'amener des tissus en grosse quantité, en une seule intervention, au lieu de nombreuses interventions, etc. Mais les principes, c'est-à-dire on remplace l'os par de l'os, on remplace les muscles par du muscle, on remplace la peau par de la peau, tout était fixé à l'époque.
C'est incroyable. Je le disais, les profils des patients que vous opérez, bien sûr, a évolué, puisqu'il y a les accidents de la route, les agressions avec armes à feu, il y a les accidents domestiques, il y a énormément de choses. On va y revenir. Les combats continuent de défigurer, malheureusement, dans le monde. Comme en Ukraine, vous y êtes allé souvent pendant ce conflit. Pour opérer des patients défigurés?
Oui, absolument. On a monté, sous l'égide de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, une mission à Lviv, dans un centre qui s'appelle Superhumans, qui nous a sollicités et accueillis. Et on a demandé à tous les chirurgiens maxillofaciaux de France de participer à cette mission, parce que on s'est engagé à y aller, à envoyer tous les trimestres une mission pendant 15 jours. Donc c'est assez prenant. Et on a pris en charge des patients qui sont des victimes d'une guerre de tranchées, c'est-à-dire avec des défigurations majeures, et qui arrive exactement dans l'état décrit dans les livres de la guerre de 14. L'Ukraine n'a pas organisé, contrairement à la France à cette époque, toute cette chaîne de centres spécialisés de l'arrière, qui avait été quelque chose de très impressionnant, qui était montée dès 1915, avec vraiment une organisation sur le territoire national très claire. Là-bas, c'est pas vraiment le cas. Donc les gens arrivent ou n'arrivent pas. Voilà. Mais en tout cas, on a travaillé beaucoup là-bas, oui.
Alors, parmi les patients que vous opérez aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont eu un cancer, dans un des éléments, une des structures du visage pour lesquelles la chirurgie a été très mutilante. Elle sauve, mais elle est souvent très mutilante. Il y a une grande avancée, avant qu'on écoute un patient que vous avez opéré. L'avancée, c'est la modélisation et l'impression 3D. C'est quoi?
Alors, dans les années 2000, on a inventé, grâce au progrès du numérique finalement, des logiciels qui nous permettent de simuler complètement la chirurgie qu'on va faire de reconstruction de l'os. C'est-à-dire de prendre un péroné, qui est un os tout droit, et...
L'os de la jambe.
Voilà. Pardon, l'os de la jambe.
C'est pas grave, je suis là pour traduire, vous en faites pas.
Excusez-moi. Et de lui donner exactement la bonne forme pour refaire une mandibule. Alors, on savait faire avant, on faisait ça à la main, avec plus ou moins de talent selon les individus, et surtout, ça prenait beaucoup de temps pour avoir exactement les bons angles, c'est pas si simple. Dorénavant, grâce à cette modélisation informatique, eh bien, on a au bloc des guides de coupe exactement comme des boîtes à ongles, vous savez, ce qui permet de faire de l'encadrement ou des plaintes, là. Donc, on coupe l'os avec la bonne forme et le bon angle, et on le pose sur le patient en ayant en plus des plaques d'ostéosynthèse, donc d'ostéosynthèse, qui ont été fabriquées sur mesure pour ce patient. Donc, on est sûr de la position de l'os. Donc, ça, c'est vraiment pour nous une avancée majeure. dont on espère qu'elle sera un jour prise en compte par l'assurance maladie.
Bien sûr. Voilà. Je voudrais qu'on écoute un de vos patients qui souffrait d'un cancer. Il s'appelle Gaëtan. Il est dans une interview diffusée sur Canal+, dans Clic Report. Écoutez.
Il n'y avait pas beaucoup de chirurgiens qui voulaient opérer. J'ai eu la chance de connaître le docteur Bertolus sur mon chemin, qui m'a opéré en février 2016.
Chloé Bertolus, qu'est-ce qu'elle représente à ce moment-là?
Pour moi, c'est l'impression de sauveur, on va dire. Il y a quand même un feeling avec certains médecins. Et là, c'est passé tout seul et je lui ai fait confiance tout de suite.
Combien de fois elle vous a opéré?
Je pense pas loin de la dizaine de fois. Hein. Parce qu'en fait, le visage, on me l'a reconstitué entièrement. C'est pour ça que ça a pris du temps. Oui. Ils se sont aidés de mon omoplate pour me refaire la voûte palatine. Ils se sont servis des tissus musculaires. Ils ont pris plein de lambeaux au niveau de l'épaule pour pouvoir refaire un visage pratiquement identique à l'opposé, en fait. Je me dis que c'est très bien. C'est du confort, maintenant. C'est de l'esthétisme. Donc, on a dépassé le stade de la... on va dire de la survie, mais donc ouais, c'est une esthétique, ça fait du bien quand même.
On va revenir sur ce vécu des patients qui ont été défigurés et qui sont reconstruits. Et ça vous fait quoi d'entendre ça?
Ça m'émeut beaucoup parce que ce patient l'a opéré en 2011, peut-être 2013, je ne me souviens pas précisément aujourd'hui, pardon.
Il y a plus de 10 ans.
Ça c'est sûr. Il avait, on peut le dire, hein, il n'en fait pas mystère, il avait un cancer très grave. Beaucoup de gens avaient dit on peut pas l'opérer, c'est trop gros, il va mourir. Voilà. Il est toujours vivant. Il a eu une petite fille dans l'intervalle. Enfin, la vie s'est plutôt présentée finalement bien pour lui. Et on a dû le réopérer parce qu'un certain nombre des reconstructions primaires qu'on avait faites ne faisaient plus l'affaire. Donc il a eu droit à un autre lambeau libre, etc. Et ça m'émeut beaucoup de l'entendre parler, parce que c'est vrai que on s'est lancé là-dedans en se disant est-ce qu'on a vraiment raison? Est-ce qu'on pousse pas les choses un petit peu trop loin? Et puis l'avenir nous a donné raison, donc c'est toujours sympathique.
C'est particulier cette chirurgie maxillofaciale, parce que le visage, vous l'avez dit, c'est à la fois la relation avec l'autre, c'est le siège de 4 de nos 5 sens, quand même essentiel. Oui. Vous avez quand même une double mission, qui est de rétablir les fonctions dont sont privés ces malades, mais aussi leur redonner un visage. C'est une double fonction.
Oui, sachant que certaines fonctions, on ne sait évidemment pas faire. Hein, la vue, quand on doit enlever un globe oculaire, je trouve que c'est toujours
un échec.
Pas nécessairement. Je veux dire, si on doit l'enlever, c'est que la tumeur l'a atteint, etc. Mais c'est dur. Je trouve que je trouve que c'est pas un truc sympathique à faire. Bien sûr qu'on tend à redonner la fonction. La déglutition, la mastication, la parole, la respiration nasale, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui... Voilà. J'avais un patron qui disait « Faites fonctionnel, la beauté viendra après ». Et je crois qu'effectivement, notre préoccupation n'est pas la beauté. Notre préoccupation est un certain rétablissement de la physiologie et... Et bien sûr que si on a une mâchoire qui ressemble à une mâchoire, on va être plus beau que si on n'a pas de mâchoire.
Mais vous dites d'ailleurs que le désir de vos patients, ce n'est pas nécessairement d'être beau, c'est de passer inaperçu.
Enfin, je pense. En tout cas, c'est pas ce qui est mis en... En fait, quand on annonce à un patient qu'il a un cancer, la première préoccupation, ce n'est pas d'être beau, je crois.
C'est de vivre.
C'est de vivre. Mais ça, on l'entend très peu, parce que c'est effectivement très vite surmonté par « mais comment est-ce que je vais parler? Comment est-ce que je vais manger? À quoi je vais ressembler tout de même ?» Donc ça, c'est une grande chance qu'on a finalement dans notre spécialité, je trouve. C'est-à-dire que les patients ne restent pas, en tout cas en apparence, en tout cas dans leur discours vis-à-vis de nous, accrochés à la notion « est-ce que je vais survivre ou pas ?» C'est très vite dépassé. C'est chouette.
Mais il y a une égalité sur le territoire. Est-ce que tous les patients savent que la réparation, ça existe?
Alors, je pense que les patients savent que ça existe. Ça ne leur est pas proposé partout, malheureusement. Notre discipline n'est pas représentée dans certaines régions entières de la France, faute de départements universitaires dans les CHU. C'est l'histoire des CHU, si vous voulez, et on travaille tous très activement à réinnerver, si j'ose dire, un certain nombre de territoires, mais on n'est pas nombreux, donc c'est difficile.
Le parcours de tous ces patients, et on l'a entendu avec Gaëtan, ça peut être très long.
C'est très long. C'est même pas que ça peut, c'est très long. Quand on fait une exérèse de cancer et une reconstruction, on apporte les tissus, on fait au mieux pour qu'ils aient tout de suite la bonne forme, la bonne disposition, etc. On sait que les patients vont ensuite le plus souvent recevoir de la radiothérapie. Donc, nos beaux résultats se trouvent un petit peu gâchés, si j'ose dire. On ne peut pas dire ça, parce que cette radiothérapie est évidemment indispensable. Et donc, ensuite, il y a des retouches. Ça, c'est sûr.
Mais ça crée quand même une relation médecin-patient assez particulière, oui. À la fois parce que ce parcours est long, mais on sait parce que les victimes défigurées sont particulières. C'est une blessure particulière.
Probablement. Je ne sais pas la comparer à d'autres, parce qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas connu autre chose. Je crois, pour répondre peut-être un peu à côté de la plaque, je crois que les patients, quand ils viennent dans le service... En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. S'ils sentent bien, parce que c'est l'endroit où personne ne les regarde.
Ils sont comme les autres.
Ils sont comme les autres. Et puis nous, c'est notre travail. Donc on n'est pas du tout... Nous ne voyons leur problème que techniquement, si j'ose dire. Donc oui, il y a sûrement une relation particulière. Comme j'en connais plus beaucoup d'autres, je suis un peu difficile de la qualifier.
Comment vous arrivez à garder de la distance par rapport à ces patients?
Bon, je crois que c'est la condition sine qua non de la perduration du métier. Enfin, on ne peut pas faire autrement.
Sans parler des patients atteints de cancer, mais les patients qui sont brûlés, qui ont fait des tentatives de suicide, victimes d'accidents, d'agressions, il y a quand même une part affective qui est importante.
Oui, mais je vous répondrai que quand je vois un patient en consultation, je suis beaucoup plus tournée vers l'avenir de ce que je vais pouvoir lui faire, de ce qu'on va bien pouvoir faire, plutôt que vers l'histoire de la survenue de la défiguration. Et donc, peut-être que c'est effectivement la façon de se projeter, plutôt que d'être coincé par le pathos, en fait, hein, le pauvre, il a été victime de telle chose, etc. C'est assez vite, en ce qui me concerne en tout cas, c'est assez vite sorti de l'écran.
Quand les fonctions sont à peu près rétablies, il y a encore beaucoup d'interventions pour améliorer l'aspect. Pour améliorer le... qui est-ce qui décide à un moment d'arrêter et de dire non, la chirurgie suivante, là on la fait pas. C'est vous à un moment qui dites il faut arrêter ou le patient qui dit j'en peux plus?
Le patient vient nous voir... autant qu'il veut. Alors là, il y a deux groupes différents. Il y a bien sûr les gens qui ont eu un cancer et
bien
qui ont besoin d'un suivi.
Ça, c'est pour ça que je parlais des autres.
Des autres, oui, pardon. Le patient vient nous voir aussi longtemps qu'il le souhaite. Et puis un jour, le patient se décroche. Et c'est très bien.
Durant tout ce parcours, ils sont accompagnés, on imagine, psychologiquement, notamment quand ils vont devoir affronter des miroirs, par exemple. J'imagine dans votre service, il y a quand même des moments qui sont difficiles.
Oui, alors nous avons des psychologues dans le service, de moins en moins d'ailleurs à mon grand dam. Nous avons des psychologues dans le service qui sont ultra formés. Certaines d'entre elles travaillent là depuis 20 ans, hein, donc c'est vraiment des gens qui connaissent ça très très bien. Et aucun patient ne passe à travers les mailles de ce filet-là, si j'ose dire. Bien sûr qu'il y a la première fois où on va dire au patient « est-ce que vous avez vu ?» etc. Alors nous n'avons pas, nous, de protocole de type miroir masqué, etc. Pas du tout. Mm-hmm. On devrait peut-être. C'est quelque chose qui n'a jamais été réellement discuté, donc je ne pense pas qu'on ait assisté à des événements de choc psychologique tels qu'on s'est dit « zut, on n'aurait pas dû lui montrer son visage ». Ça ne se passe pas comme ça.
Quand le parcours est terminé, ils sont toujours eux ou ils sont quelqu'un d'autre?
Ah. Ils sont eux dans la mesure où quand ils passent devant un miroir, ils s'acceptent. Bah, on est soi-même. De toute façon, je ne crois pas que l'apparence du visage change la personnalité. Enfin, ça c'est... Voilà. Mais j'ai des témoignages assez... dont un de... Allez, on va le citer, puisque de toute façon, il n'en fait pas non plus... mystère de Philippe Lançon qui un jour m'a envoyé un SMS. Il était dans une île anglaise, je crois, et il m'a dit en passant devant un miroir, dans un pub, je me suis dit que vous aviez fait du bon travail. Et ce que j'ai entendu là, oui, voilà, c'est qu'en passant devant ce miroir, il s'est pas dit qui est ce type. C'est-à-dire qu'il s'est reconnu. Et il y a cette espèce de stade du miroir chez ces patients défigurés. Hein. On va pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais il y a ce moment où le patient se reconnaît comme étant lui. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a cette acceptation inconsciente de sa propre image. C'est-à-dire qu'il passe plus devant une vitrine avec surprise. Je dis pas qu'il passe avec satisfaction. Mm-hmm. La question n'est pas de se trouver beau, pas beau, encore une fois. C'est de se trouver soi. C'est de se reconnaître.
Je voudrais qu'on dise un mot du geste quasi ultime de cette chirurgie qui est la greffe de visage. La première date de 2005, réalisée par le professeur De Vauchel et son équipe. C'était une jeune femme de 38 ans, Isabelle Dinoir, qui avait été défigurée par son chien et qui avait bénéficié à partir d'un donneur d'une greffe de face partielle. Depuis 2010, il y a eu des greffes totales qui ont été faites. Ça reste malgré tout très limité. C'est limité parce qu'il y a peu de donneurs, parce que c'est un geste important, parce que voilà, il y a tout le traitement derrière, etc. Ou ça reste quelque chose quand même qui peut pas être la solution évidente.
Alors, je crois qu'à ce jour, il y a eu une soixantaine de greffes réalisées dans le monde. Je ne connais pas les chiffres précis, mais enfin, je crois que c'est moins de 100, alors qu'on est 20 ans après. Donc effectivement, ça reste de l'ordre de l'exception par rapport aux transplantations rénales, hépatiques, cardiaques, qui sont du quotidien, hein, même si c'est toujours très difficile de trouver des greffons, etc. Voilà. Alors, pourquoi ça reste l'exception? D'abord, parce que rares sont les gens qui ont besoin, et Dieu soit loué, d'une greffe de visage pour être présentable, puisque c'est de cela qu'on parle depuis le début de cette émission. Donc, il y a peu de cas. Ensuite, ça reste des greffes très compliquées. Je ne parle pas de la technicité, je parle du point de vue immunologique. Je crois que les accidents, enfin les incidents de rejet, etc.
Malgré tout le traitement qu'on donne, bien évidemment, immunosuppression.
Reste un gros problème et je pense que la clé est dans la muqueuse. Je crois que la muqueuse est très immunogène et donc il y a.
Qu'elle donne facilement des rejets.
C'est ça. Donc je crois que l'immunologie de ces greffes reste très compliquée. Et donc, on a quand même du mal à franchir cette étape. Mais là encore, je crois que malgré tout, c'est un outil indispensable et qu'on ne doit pas renâcler et rechigner devant l'obstacle et tout faire pour améliorer l'immunologie plutôt que de se dire on ne doit plus transplanter les gens.
Si vous nous regardiez, ne vous inquiétez pas, il y a des sautes de lumière. C'est pas parce qu'on nous met à la porte, mais je ne sais pas, c'est des petits problèmes techniques. On va continuer à parler recherche, mais sur un sujet très différent. Hein, donc je vous ferai même pas réagir, parce que, ou alors, sauf si vous en avez envie. Chaque semaine, dans Carnet de Santé, Alexandra Delbotte nous propose une de ses passionnantes chroniques avec science. Écoutez.
Quelle est l'efficacité des médecines alternatives dans la prise en charge de l'autisme? D'emblée, il faut rappeler une chose essentielle, l'autisme n'est pas une maladie. C'est un trouble neurodéveloppemental qui prend des formes très variées avec tout un panel de manifestations. C'est pour cela que le bon terme est TSA, trouble du spectre autistique. Et on distingue deux grandes catégories de caractéristiques. D'un côté, la communication sociale avec des difficultés d'interaction et d'expression présentes chez toutes les personnes autistes, mais à des degrés différents. De l'autre, l'aspect comportemental avec une résistance au changement, des comportements parfois répétitifs et ou des réactions sensorielles particulières. Et qui dit hétérogénéité des caractéristiques dit diversité des prises en charge. Corentin Gosling est maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre et neuropsychologue-chercheur au service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert-Debré.
Comme il y a une très grande variabilité au niveau phénotypique, il y a trois grandes classes d'interventions qui ont été développées. Les premières, ce sont les interventions psychosociales. Donc ça, ce sont les interventions qu'on considère souvent comme étant de première ligne dans l'autisme, avec les interventions comportementales, où on essaie, par exemple, avec du conditionnement, de faire acquérir certaines compétences à des enfants très jeunes qui peuvent avoir une déficience intellectuelle. La deuxième type de prise en charge, ça va être par exemple les prises en charge pharmacologiques, avec certaines, on va dire très peu, mais quand même certaines classes médicamenteuses qui ont été approuvées par la FDA, donc l'organisme qui approuve les médicaments aux États-Unis, avec par exemple des antipsychotiques pour les comportements problématiques, l'irritabilité, ce genre de choses. Et la troisième classe de prise en charge qui a été proposée, c'est donc justement les thérapies complémentaires et alternatives, où là, il y a une très, très grande variabilité dans ce qu'on considère comme étant une thérapie complémentaire et alternative. Mais généralement, ça regroupe un petit peu les thérapies qui sont données en dehors, on va dire, du système de soins classiques.
Selon différentes enquêtes, une personne autiste sur deux se tournerait vers ces pratiques parallèles. Alors, médecine alternative, complémentaire, parallèle ou douce, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit, même s'il n'existe pas de définition universelle. Selon la collaboration Cochrane, cela regroupe tout ce qui n'est pas la médecine occidentale, tout ce qui n'est pas un traitement standard et tout ce qui est hors des institutions médicales conventionnelles. Et un point important, le critère d'efficacité ne sert pas à définir ce qu'est ou non une médecine alternative. Mais c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette nouvelle étude parue dans Nature Human Behavior. Quelle est l'efficacité de l'ensemble de ces pratiques dans la prise en charge du TSA? Et pour répondre à cette question, les scientifiques ont mené une sorte de revue de la littérature scientifique, mais au niveau supérieur. Plutôt que de rassembler toutes les études testant l'efficacité des médecines alternatives dans le TSA, les scientifiques ont pris toutes les méta-analyses existantes, ces études d'études dont je parle souvent à ce micro. C'est ce qu'on appelle aussi une revue ombrelle ou parapluie, c'est une méga étude, des super études sur le sujet. Résultat, aucune médecine alternative, que ce soit acupuncture, zoothérapie, musicothérapie, stimulation magnétique transcrânienne, mais aussi des compléments alimentaires, vitamine D, mélatonine, probiotiques, aucune ne montre une efficacité robuste pour alléger les spécificités des personnes autistes.
On est globalement assez incertain de l'efficacité des thérapies complémentaires et alternatives dans l'autisme. Donc ça, quelle que soit la thérapie complémentaire alternative, globalement, à part l'ocytocine, où on est à peu près sûr que les effets sont assez, voire très faibles, dans toutes les autres thérapies, on a un niveau de preuve, donc une confiance dans l'estimation des effets, qui est très faible. Donc ça, ça a été vraiment le premier grand résultat qu'on a trouvé. Concernant l'efficacité, quel que soit le groupe d'âge, quelle que soit la classe thérapeutique, on est assez certain des résultats. Le deuxième grand résultat qu'on a obtenu, c'est concernant la sécurité. Et là, en fait, on s'est heurté à un souci où très peu de méta-analyses avaient évalué la sécurité des interventions complémentaires alternatives dans le TSA, avec moins de la moitié des thérapies qui avaient été étudiées pour un effet secondaire dans n'importe quel groupe d'âge. Donc ça, c'était vraiment nos deux grands résultats. Côté incertain de l'efficacité et vraiment le manque d'évaluation de la sécurité en termes d'effets secondaires.
Les études sont trop limitées en taille et en qualité pour conclure sur l'efficacité. Quelle que soit la thérapie envisagée pour soi, en tant que personne autiste ou pour les parents d'enfants présentant ce trouble, il est indispensable que les résultats scientifiques soient intégrés dans le processus de décision et en discussion avec leurs professionnels de santé. Pour rendre ces données accessibles, les auteurs et autrices ont créé une plateforme en ligne qui recense les différentes approches et met en lumière leurs limites. Est-ce que cela signifie pour autant qu'il faut arrêter d'évaluer l'efficacité des médecines alternatives dans l'autisme? Non, bien sûr. L'enjeu est de mener des études plus solides, mais aussi plus personnalisées, capables de tenir compte de l'hétérogénéité du spectre autistique.
Merci Alexandra Delbo. J'ai un défi pour vous, Chloé. En 30 secondes, je voudrais savoir si on peut imaginer un jour de faire en laboratoire tous les éléments du visage.
Beaucoup de gens travaillent dessus et depuis longtemps. On sait faire de l'os en petite quantité, la taille d'un sucre. On sait faire de la peau, on sait à partir de cellules souches faire plein de choses. Le défi, il n'est pas malheureusement quantitatif, mais qualitatif semble-t-il. C'est-à-dire qu'on sait faire un morceau d'os, mais on ne sait pas faire une mandibule avec sa vascularisation, ses nerfs, etc. On cherche beaucoup.
Oui.
On verra.
Merci beaucoup d'avoir relevé ce défi. Merci pour toutes vos réponses. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission et à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en ondes.